demain.
On brade, on solde, tout doit disparaître. Pas encore un programme politique, quoique juste l'actualité du jour dans les boutiques de France et de Navarre. 8h du matin, première bousculade, première course de vitesse dans les rayons des grands magasins. Jour J, c'est le début des soldes et à chaque saison, c'est pareil ou presque, la fête à la consommation, la quête de l'objet manquant et l'enquête très stressante pour trouver le moins cher. À faire, tel est le slogan. Mais cette année, c'est une consigne, alors même que le moral des Français est en berne et leur porte-monnaie rappelle plat, le gouvernement encourage mes concitoyens à se ruer sur les rabais. Gagner moins, mais acheter plus. Les soldes comme réponse à la baisse du pouvoir d'achat. Pourquoi se plaindre puisque tous les prix baissent? Sauf la baguette, les coquillettes, le lait, l'essence, le gaz, le train, la vie, en bref. Et si les soldes ne marchaient pas? Difficile à imaginer, et pourtant, c'est calme, disent les premiers échos des grands boulevards. Dans le pourcentage des chiffres d'affaires se nichera peut-être l'indice réel du pouvoir et du vouloir d'achat des Français. Et si les moins pauvres n'achetez plus. La révolte des fashion victimes gronde, première ou deuxième des marques, pour la dernière fois peut-être, en tout cas, car le gouvernement veut créer des soldes à l'année. On brade, on solde, tout un programme, vous dis-je.
Culture vive, Pascal Paradis.
Vraiment, j'ai réussi ma vie, puisque j'ai réussi à peu près tous mes rêves. Simplement, il y a un moment où, quand on se retourne réflexivement sur sa vie, on s'aperçoit qu'une vie, même réussie, c'est sur un certain plan un échec, parce que ça n'est pas quelque chose, une vie, qu'on puisse prendre dans ses mains, posséder, contempler, qu'on n'a pas une vie finalement.
Une vie réussie, celle de Simone de Beauvoir, dont on célèbre aujourd'hui le centenaire de la naissance, écrivain, féministe, libre. La compagne de Jean-Paul Sartre incarne la figure de l'intellectuel engagé du XXe siècle, un castor de guerre, pour reprendre le titre de la biographie que lui consacre Daniel Salnave. Bonjour Daniel Salnave.
Bonjour.
Êtes-vous d'accord avec Simone de Beauvoir sur le constat d'une vie réussie?
Je pense qu'elle fait état dans ce petit entretien de cette immense modestie qui est aussi un trait d'elle dont on ne parle pas suffisamment. C'est une femme immensément modeste, une femme qui pense qu'elle a fait ce qu'elle devait, mais qu'au fond, ce qu'elle a fait, eh bien, va lui échapper, d'abord parce qu'elle va mourir, et aussi parce que, elle le dit même, on est tout à fait surpris, je mourrai tout entière, dit-elle. On pourrait très bien imaginer, puisqu'on l'imagine assez impérieuse ou autoritaire, disant je lègue une œuvre immense. Non. Elle dit rien n'aura eu lieu, au fond. C'est assez touchant, cela, parce que c'est peu fréquent. Nous avons des auteurs qui n'ont pas son envergure et qui sont bien plus assurés de leur valeur et de leur avenir posthume.
Mais être tout entière, être soi, c'était l'objectif de sa vie. Un objectif, une obsession, quasiment.
Ah, c'est son objectif. C'est son objectif. On en a la confirmation dans les cahiers qu'elle rédige dans son extrême jeunesse, vers 18-19 ans, qui vont être publiés bientôt, où elle émerge d'un seul coup. C'est après le bac, elle commence ses études supérieures, et elle a l'impression qu'elle émerge, comme un papillon qui sort de la chrysalide. Elle en est même surprise. Elle dit « J'ai un moi extraordinairement puissant, aucun obstacle ne m'arrêtera. » Et puis le lendemain, elle écrit « Non ». Si, tous les obstacles m'arrêteront, peut-être que je ne vaux rien. Et deux jours plus tard, elle repart. Non, j'ai ce moi extrêmement puissant et ma vie sera une œuvre.
Est-ce que c'est dans ce désir très très fort d'être soi qui la dépasse elle-même,
oui, qui la dépasse.
Elle trouve la liberté pour mener sa vie. Immense liberté pour une femme du XXe siècle, du début du XXe siècle, puisqu'elle naît donc en 1908. Elle refuse le mariage, elle refuse les enfants, elle refuse la fidélité. C'est une femme libre.
Oui, et c'est une femme libre. Je crois que cette liberté-là, elle va la poser dans la vie privée, dans la vie publique, à tout moment. Et elle la pose dès ses cahiers, et peut-être même encore un peu plus tôt, dans sa jeunesse, quand elle a 14 ans ou 15 ans. Et elle se montre ayant d'un seul coup compris que la foi religieuse, l'avenir qu'elle nous promet par-delà la mort, n'existe pas. Nous n'avons que cette vie, mais elle n'en est pas désespérée. Tout le contraire, nous avons cette vie. Et de cette vie-là, il faut, comme disaient les Grecs, épuiser tout le possible. Et cette vie est un immense champ à conquérir, un champ de bataille peut-être, d'où Castor de guerre, mais est un immense champ. J'ai devant moi un trésor, dit-elle, toute une vie à vivre. C'est Castor, magnifique de lire ça.
Castor de guerre, cela fait référence au surnom qu'on lui donnait et à sa coiffure, hein, Castor.
Oui, alors Castor était au départ, c'est le surnom que lui donne René Maheu, qui fut directeur de l'UNESCO, et parce qu'il avait traduit Beauvoir, Beaver en anglais. Et puis il disait, ça vous va bien parce que vous avez l'esprit constructeur. C'est vrai. Et puis, elle écrit Castor de guerre au dos d'une petite photo, en 39, au moment de la déclaration de guerre. Et quand j'ai lu ça, j'ai eu l'impression que c'était un signe qu'elle m'envoyait de l'au-delà. Elle me dictait le titre de mon livre.
Ça résumait un petit
j'ai
peu
très
sa vie.
Souvent senti le dialogue. J'étais pas halluciné, n'exagérons pas. Mais tout de même, la présence réelle, je l'ai sentie très souvent. Surtout quand je luttais avec elle.
La vie de Simone de Beauvoir, être soi comme ligne de vie, comme ligne de force de son existence, avec l'écriture à l'intérieur. Vous faites un distinguo très intéressant, il me semble, Daniel Salnave, entre la position de Sartre, qui était son compagnon, et sa position à elle par rapport à l'écriture. Vous dites qu'elle aime la vie et que l'écriture en fait partie, alors que pour Sartre, il ne vit que pour écrire.
Oh, c'est une opposition fondamentale. Elle la sent très tôt. Elle l'admire beaucoup quand elle le rencontre. Elle a l'impression qu'elle rencontre un jeune génie et que ce jeune génie va exploser un jour ou l'autre. Elle en est sûre. D'ailleurs, lui aussi en est sûr. Lui, il a un côté très, je dirais, c'est la prédestination. Il est déjà Sartre dès qu'il apparaît. Elle, pas du tout. Elle a une vocation. Il faut le faire, ce travail. Il faut l'accomplir, cette œuvre. Mais elle dit, Sartre ne vit que pour écrire. Mais moi, c'est la vie qui est mon œuvre. Et l'écriture en fait partie. Mais c'est la vie qui est mon œuvre. Chaque moment, chaque instant, chaque voyage, chaque rencontre, chaque amitié, chaque détail d'un voyage, chaque détail d'un livre, d'une musique, d'une nourriture, comme à la guerre où tout le monde est assez court un peu après tout cela, elle dit, oh, c'était magnifique au dôme. Il y avait du soufflé au fromage et du veau au petit pois. Donc, elle est contente parce qu'elle aime les nourritures. Elle adore ça.
D'où une œuvre assez autobiographique, d'ailleurs.
C'est une œuvre très autobiographique.
Philosophique, détachée de toute la vie,
non,
au contraire.
Non, elle a une œuvre philosophique très forte, à mes yeux aussi forte que celle de Sartre, qui restera peut-être même plus que celle de Sartre. Elle a une œuvre romanesque très forte. Elle a une correspondance et des journaux admirables qui ont été publiés après sa mort. Elle a ses mémoires. Et tout cela forme un ensemble incroyablement vivant et puissant, et qui est toujours animé par sa présence. Pas toujours autant. Bien sûr, dans un texte philosophique, elle ne raconte pas ses vacances. Mais elle est là. Dans le deuxième sexe, quand elle va dire « la femme est enfermée dans les travaux ménagers ». Mais quelques années plus tard, en écrivant ses mémoires, elle dit « quand j'étais enfant, je voyais cette répétition, tous les jours, la vaisselle, le ménage, etc. » Je me disais « ça, je n'en veux pas ». C'est prouve que le deuxième sexe, tout en étant un texte très philosophique, est un texte très personnel, très autobiographique aussi.
Alors l'œuvre de Beauvoir est immense. Dès le premier roman, l'invité, elle connaît le succès. C'est l'histoire, c'est une histoire très proche de sa propre vie. D'ailleurs, c'est une histoire à trois, puisque il y a Sartre et puis il y a souvent des amours contingents. Comme il les appelait, de son côté à lui ou de son côté à elle d'ailleurs. Mais il y a aussi ce texte que vous évoquiez, Daniel Salnave, Le deuxième sexe, publié en 1949, est considéré comme le manifeste du féminisme.
Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique, qui définisse la femme en tant que telle. C'est une histoire qui l'a faite, d'abord l'histoire de la civilisation, qui aboutit à son statut actuel, et d'autre part, pour chaque femme particulière, c'est l'histoire de sa vie, en particulier c'est l'histoire de son enfance, qui la détermine comme femme, qui crée en elle quelque chose qui n'est pas du tout une donnée, une essence, qui crée en elle ce qu'on a appelé quelquefois l'éternel féminin, la féminité. Et plus les études psychologiques sur les enfants s'approfondissent, plus il est sensible, plus on voit avec évidence que vraiment le petit bébé féminin est fabriqué pour devenir une femme.
Simone Simone de Beauvoir en 1975, soit 11 ans avant sa mort, c'était une interview avec Jean-Louis Servan-Schreiber où elle explique pourquoi je suis féministe. On ne naît pas femme, on le devient, dira-t-elle aussi en plus court. C'est vraiment l'étendard du castor, ce féminisme. Et en même temps, vous dites à propos du deuxième sexe, Daniel Salnave, que ce n'est pas un livre militant pour les droits des femmes, mais plus généralement pour la liberté de l'être humain. Alors, manifeste ou pas féministe ?
Tout à fait. Manifeste féministe, je ne le dirais pas en ces termes. Elle-même, en 70, c'est-à-dire après 68, au moment où les femmes prennent en main leur destin, dans une autre interview, elle dit « Oui, j'ai compris à ce moment-là qu'il fallait aussi une lutte spécifique, une lutte collective. » Elle a été heureuse au milieu de ces groupes de femmes qui avaient une certaine révérence pour elle, mais lui parlait aussi avec beaucoup de liberté. Beaucoup en témoignent encore aujourd'hui. Mais ce qu'il faut bien voir, ça c'est quand même très rare. Il y a dans l'humanité des livres qui sont exceptionnels. Pourquoi ? Parce qu'il y a un avant et un après.
Et on vous dites que le deuxième sexe, c'est un livre qui change la face du monde, dites-vous vraiment.
Je pense que
c'est
un livre qui change la face du monde. Je pense qu'il y a un avant et un après. Et ça, je crois que les jeunes femmes d'aujourd'hui qui vivent sur une donnée maintenant qui est très différente, nous avons des droits qui sont quand même infiniment supérieurs à ceux qui étaient les droits des femmes en 49, et surtout, par rapport à la sexualité. Nous avons accès à la contraception, un droit à l'avortement, qui d'ailleurs n'est pas toujours facile à faire respecter, mais qui tout de même existe. Mais il faut bien voir qu'en 49, quand Beauvoir écrit cela, nous sommes quelques années après le régime de Vichy, pendant lequel une femme accusée et convaincue d'avoir opéré des avortements sur d'autres femmes est condamnée à mort et guillotinée. Et Beauvoir met l'accent d'une manière qu'on a mal comprise. On lui en veut de cela. On lui dit « Ah, elle a reproché aux femmes d'être mère, elle-même n'a pas voulu être mère, quelle honte !» Il y a deux choses, à mon avis, qu'il faut distinguer. Il y a ce qu'elle dit sur le plan théorique et pratique, qui est très juste, c'est que les femmes sont assignées à leur destin par le fait qu'on leur dit, y compris comme elle le dit elle-même, dès leur petite enfance, toi tu seras mère, et on leur donne des poupées, des landaux, et on leur dit, tu feras pas forcément d'études comme ton frère, mais c'est moins grave, puisque t'es destinée au mariage et à la maternité. Et Beauvoir dit, ça c'est pas possible, parce que c'est une restriction de leur destin. On dit aux garçons, tu seras un aventurier mon fils, tu monteras sur l'Himalaya, et tu inventeras la fission de l'atome, et quant à ta femme, elle restera à la maison et élever tes enfants. Alors, là où il y a un problème, c'est que quand elle a parlé de ses propres choix, elle en a parlé de façon un peu raide. Elle a dit, pas question d'être mère, et faire des livres, c'est bien mieux que de faire des enfants. Et
ça, oui, elle est assez violente. Hein,
c'est un peu violent. Pourquoi ? Parce que des femmes extrêmement estimables, et qui ne sont pas écrivains, et qui sont mères, n'ont pas envie d'être considérées comme inférieures parce qu'elles sont mères. Et je la comprends. Je la comprends. Mais en revanche, quand elle dit que c'est sur la maternité qu'on focalise et qu'on enferme les femmes. Mais vous savez, Françoise Héritier le dit, quand elle dit c'est la fécondité des femmes que les hommes ont voulu capter. C'est ce qui explique pourquoi les femmes ont été un deuxième sexe.
Le deuxième sexe, en tout cas, sexe, énorme succès, énorme scandale, hein, énorme. À l'époque, interdit par le Vatican, mis à l'index, etc. Il y a un autre mot, enfin, c'est, alors là, pour le coup, c'est pas un ouvrage, c'est un mot qui doit être prononcé, c'est existentialisme. Oui. Est-ce que Simone de Beauvoir est une existentialiste, selon vous,
fondamentalement. Daniel ?
Alors que c'est Sartre qui en est le pape,
c'est
logiquement.
C'est elle, oui. Et c'est l'inventeur d'un certain nombre de formulations, de textes. Il ne faut pas oublier, et là je vais me montrer féministe, il y a une grande différence entre eux, qu'on a remarqué, c'est que l'un est un homme, l'autre est une femme.
Jusque-là, tout va
bien. Mais cette différence, elle mène très loin. Ça veut dire que notre petit jeune Sartre, quand il apparaît sur la scène dans les années 30, il est le fils d'une famille bourgeoise et universitaire, élève d'Henri IV. Normalien, il a toutes les légitimités pour parler comme Bourdieu, qui n'est pas un auteur que pour le reste je pratique beaucoup, mais peu importe, il a toutes les légitimités. C'est donc lui qui va proposer les thèses, la contingence, etc. Mais elle, depuis ses cahiers de jeunesse, à travers ses mémoires, on le sent, elle a entièrement posé la base de l'existentialisme. C'est très simple, la base de l'existentialisme. Ah, c'est pas une philosophie compliquée, c'est quoi ? Nous ne sommes déterminés par rien, ni par un dieu, ni par les conventions, ni par notre nature, soit physique, soit morale. Nous devons choisir notre destin. Ce que Sartre appelle, nous sommes condamnés à être libres. C'est elle qui l'a dit bien avant lui.
En tout cas, c'est le 29 octobre 1945 qu'on peut dater la naissance de l'existentialisme. C'est la fameuse conférence de Sartre, l'existentialisme est-il un humanisme ? C'est un point de départ, et pendant 30 ans ensemble, en fait, ils vont marquer l'époque. Comme vous l'écrivez d'ailleurs, Daniel Salnave, l'époque va se régler sur eux.
Il ne s'agit pas pour l'intellectuel d'errer capricieusement d'une ligne politique à une autre, bien entendu. Il ne peut d'ailleurs en avoir qu'une, c'est-à-dire qu'étant intellectuel, il prend évidemment le point de vue de l'universel, donc le point de vue de l'intérêt de l'humanité en général, donc un point de vue de société sans classe, donc le point de vue du socialisme. Mais ceci dit, il doit être très vigilant. Il y a des hommes qui sont faits pour agir. Ce sont des politiques proprement dites. Ils sont bien obligés, eux, quelquefois, de se buter trop dans une ligne, parce que ça n'irait pas jusqu'au bout, et de ne pas la contester. Mais il faut qu'il y ait à côté d'eux des gens qui soient critiques et qui s'aperçoivent du moment où le choix des moyens dont on sert pour atteindre une fin altère cette fin elle-même. Parce que c'est ce qui arrive très souvent en politique, c'est que comme vraiment on veut atteindre une certaine fin, on prend des moyens qui finissent par détruire la fin. Eh bien, c'est le rôle de l'intellectuel de garder toujours cette fin présente dans son esprit, mais de critiquer les moyens qui détruiraient la fin.
Je trouve que ça fait du bien d'entendre cela, Daniel Salnave.
Oui, je vais quand même faire forcément ce que j'ai fait dans tout mon livre. C'est-à-dire que dans mon livre, j'ai voulu dire l'immense hommage que je lui rends, mais aussi l'immense débat que je mène avec elle depuis des années et des années.
Oui, vous lui faites plein de reproches.
Mais oui, peut-on appeler ça des reproches? C'est que je discute vraiment comme je n'aurais jamais osé le faire avec elle, mais je discute pied à pied, en particulier lorsque j'entends notre castor vers 1975 dire que certains moyens altère la fin qu'on se propose, mais ça s'applique très directement à certains régimes qu'ils ont soutenus. Si la fin était l'émancipation des hommes, peut-être que les moyens utilisés par l'Union soviétique de Staline et même d'après, ou par la Chine de Mao, ou par Fidel, en disant par Castro, quelques mois après, Fidel, ou par d'autres encore, précisément les moyens ont altéré, c'est le moins qu'on puisse dire, la fin.
C'est vrai qu'ils se sont trompés. Vous dites d'ailleurs, Daniel Salnave, à propos de Sartre et de Beauvoir, qu'ils sont les vrais héritiers des philosophes des Lumières et en même temps les héritiers indignes. Je trouve que c'est un beau résumé.
Ils sont les héritiers aussi parce qu'ils ont cru dans les despotes éclairés. C'est tout à fait pareil. Et c'est là qu'il y a quelque chose, si je peux parler un peu trivialement, il y a quelque chose qui coince là. Parce que chez Beauvoir, il y a cette volonté d'émancipation individuelle qui est magnifique. Quand elle veut absolument choisir sa vie, ne pas se marier, ne pas avoir d'enfants, habiter à l'hôtel, tout ça, c'est magnifique, c'est formidable. Et puis tout d'un coup, quand il s'agit de l'émancipation des peuples, là, c'est pas au peuple même qu'on demande de faire ce mouvement d'émancipation. On dit au peuple, écoutez, peuple, au pluriel, vous n'êtes pas très éduqué, surtout quand vous êtes un peuple chinois, vous êtes enfoncé dans la terre chinoise et dans le confucianisme, mais vous inquiétez pas, il y a un grand guide, quelqu'un qui sait mieux que vous et qui va vous mener à l'émancipation. Et là, ça coince à mon avis. Et d'ailleurs, ils le savent bien. Sartre a passé sa vie à essayer de concilier le marxisme, qui n'est pas une philosophie de la liberté, et l'existentialisme, qui est une philosophie de la liberté. Ils n'ont pas réussi à concilier. Ils ont fait un pari, et ce pari, ils l'ont perdu. Mais ils ne sont pas les seuls à l'avoir perdu. Moi, quand j'avais 20 ans, j'étais tout à fait proche de ce pari-là. Après, j'ai un peu changé.
En tout cas, la vie de Simone de Beauvoir ne peut pas se résumer à ses engagements politiques.
Non, pas, sûrement pas.
Et notamment dans votre livre, on n'a pas trop le temps de s'éterniser dessus, mais vous racontez bien comment il y a deux périodes, avant la guerre, 39-45, et après, il y a une forme d'insouciance dans la première partie, et puis c'est la période des amours contingentes, etc., etc. Et puis après, il y a la deuxième partie où elle découvre, elle rentre dans un monde en lutte avec la guerre.
L'histoire me saisit pour ne plus me lâcher. Parce que vous savez, ces façons de dire sont tout le temps comme ça, nettes, tranchées. Et j'ai examiné ça aussi dans les mémoires, ce côté impérieux qui prend le lecteur par la main et qui le guide. Mais ce qui est évidemment troublant, c'est qu'ils aient pu, c'est pas qu'ils n'ont pas vu, c'est qu'ils ont cru comme beaucoup qu'il fallait peut-être fermer les yeux sur certains inconvénients pour préparer des lendemains qui seraient meilleurs. Mais il ne faut pas oublier quand même qu'il y a eu un moment où ils ont eu une vraie vigilance et un vrai rôle, qui est celui de la guerre d'Algérie. Et leur violence, la violence de Beauvoir, quand elle dit qu'elle est déchirée par la guerre d'Algérie, qu'elle a honte d'être française parce qu'elle entend parler de la torture, parce qu'elle sait les grandes manifestations qui aboutissent au massacre d'Algériens à Paris, etc. Moi, j'ai vu ça dans ma 20e année, j'étais au moment de la fin de la guerre d'Algérie. C'était un moment terrible de notre histoire. Et elle a une violence contre ce moment-là qui est quand même assez magnifique.
Daniel Salnave, cette autobiographie, on utilise le terme, n'est pas à proprement parler, je trouve, une autobiographie, c'est plutôt vous utilisiez le mot de dialogue, je trouve qu'il est plus juste, c'est une relecture de l'œuvre de Simone de Beauvoir. Vous n'êtes pas allé dans les archives, vous rencontrez des témoins de l'époque, vous êtes resté au plus proche d'elle et de son œuvre. Intimement, et c'est juste comme ça une question, pour qui n'aurait jamais lu Beauvoir, qu'est-ce que vous conseillez, qu'est-ce que vous dites qu'il faut lire impérativement de Beauvoir?
Il faut lire mon livre, bien sûr, mais il faut impérativement
lire Les Mémoires d'une jeune fille rangée. Il faut commencer par ce livre qui a un charme extrême et qui en même temps est un parcours de liberté, et pas seulement pour une femme, pour un garçon aussi, parce que quand elle dit que la petite fille est élevée pour devenir une mère, mais le garçon est élevé pour tu seras un homme mon fils, tu pleureras pas quand tu te coinces les doigts dans la porte, donc les deux éducations sont à refaire.
Daniel Salneuve, merci beaucoup, on aimerait avoir plus de temps pour parler de votre livre et Simone de Beauvoir, mais ce sera autant de temps gagné pour lire Castor de guerre qui est édité chez Gallimard. Le journal sur RFI, et on se retrouve pour le reste de l'actualité culturelle.